Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Au début de ce mois de mai, la Fondation mondiale du cacao, qui regroupe quelques grandes entreprises multinationales du cacao, a publié un communiqué. Cette fondation se félicite des progrès enregistrés dans la lutte contre la déforestation provoquée par la culture du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ces deux pays ne sont pas choisis au hasard. Ils sont les deux principaux producteurs de cacao au monde. Quand un consommateur n'importe où sur la planète déguste un morceau de chocolat ou un produit chocolaté, il y a fort à parier qu'il consomme un peu de fèves de cacao venant d'un de ces deux pays ouest-africains. Mais alors, vous dites-vous, si la Côte d'Ivoire et le Ghana occupent une place si importante, ils doivent être, passez-moi l'expression, les rois, sinon du pétrole, du moins du cacao, et les planteurs, les paysans, vivre confortablement. Eh bien, pas du tout. La plupart d'entre eux vivent même sous le seuil de pauvreté, selon les indices de la Banque mondiale. Des efforts sont pourtant faits par les entreprises et les gouvernements, en particulier en Côte d'Ivoire. Beaucoup de monde s'agite pour essayer d'améliorer les revenus des paysans, en particulier en Côte d'Ivoire, mais apparemment, cela ne change rien. Alors pourquoi ces efforts ne seraient-ils que de l'esbrouffe? Et si ça l'est sur ce plan-là, que penser des déclarations de victoire dans la lutte contre la déforestation que j'évoquais il y a un instant? Et si la production de cacao génère tant de maux, le jeu en vaut-il la chandelle? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées aux deux invités que je vous présente maintenant, deux éminents connaisseurs du monde du cacao, tous les deux en ligne d'Abidjan, et nous allons donc parler du cacao ivoirien. Bonjour Michel Arion.
Bonjour Monsieur Boris.
Michel Arion, vous êtes diplomate européen, vous êtes le directeur général de l'Organisation internationale du cacao, dont le siège est à Abidjan. Avec vous dans cette émission, François Ruff, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
François Ruff, vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, une institution française, pour le compte de laquelle vous avez sillonné depuis plusieurs décennies les principaux terroirs de production de cacao de l'Indonésie à la Côte d'Ivoire, en passant par le Ghana et j'en passe, la Côte d'Ivoire où vous êtes maintenant installé. Au cours de cette émission, des reportages bien sûr, nous irons dans les forêts cacaoyères de l'est de la Côte d'Ivoire, dans la zone d'Abengourou, en particulier près de la frontière avec le Ghana. Michel Arion, ma première question est pour vous. Je disais que la Côte d'Ivoire avec le Ghana occupait une place prépondérante dans la production mondiale de cacao, mais plus encore, quelle est la place, quel est le rôle de la Côte d'Ivoire sur ce marché ?
Ah, la Côte d'Ivoire sûrement a un rôle dominant puisqu'ils produisent plus de 40% du cacao mondial et avec le Ghana ensemble ils produisent les deux tiers du cacao mondial. Je dirais même que l'Afrique, la douzaine de pays africains produisant du cacao représente 77% de la production mondiale. Donc le cacao c'est typiquement un produit africain et spécialement de l'Afrique de l'Ouest.
Mais la Côte d'Ivoire,
par ailleurs, oui. Non seulement ils produisent, mais ils transforment aussi. Ça, c'est très important. Je crois qu'on en parlera. La Côte d'Ivoire est aussi le premier pays transformateur de cacao. Il vient de prendre la première place aux Pays-Bas.
C'est-à-dire que c'est une évolution importante sur ce plan-là.
Ah, ça me semble tout à fait fondamental, puisque sur les 2 200 000 tonnes de cacao produits par la Côte d'Ivoire, un peu plus de 600 000 sont transformées localement, et on voit tout le temps plus d'investisseurs monter des usines de transformation, ce qui évidemment permet à la Côte d'Ivoire d'augmenter la valeur ajoutée liée à la transformation localement.
François Ruff, depuis quand la Côte d'Ivoire occupe-t-elle cette position dominante sur le marché du cacao ?
De mémoire, si je ne me trompe pas, depuis 1978, à la faveur d'une ascension irrépressible de la Côte d'Ivoire par migration continue, mais aussi par effondrement à l'époque du Ghana.
Qu'est-ce que vous appelez par migration continue ?
Les pays ne font pas de cacao sans migration. C'est une constante, ça fait partie de l'histoire universelle du cacao depuis le début, depuis 4 siècles. Ce sont très rarement les autochtones, les gens natifs de ces zones de forêt qui jouent un rôle majeur comme producteurs, mais ce sont presque toujours des migrants qui sont attirés par le qui ont un jour au moins l'information qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut améliorer son niveau de vie avec le cacao, et qui viennent massivement apportant leur force de travail et leur ingéniosité parfois pour défricher les forêts et planter du cacao.
Et donc en Côte d'Ivoire, il y a eu une migration des villes vers les campagnes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, pas du tout des villes vers les campagnes, des zones pauvres ou relativement pauvres, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général, les zones pauvres au début du XXe siècle au Ghana, et voire à la fin du XIXe siècle au Ghana et au milieu du XXe siècle en Côte d'Ivoire, ce sont les zones de savane, avec une pluviométrie insuffisante pour faire du cacao, et donc les migrations se sont déclenchées depuis les zones de savane vers les zones très arrosées, les zones forestières, pour aller participer au boom cacao. Alors, zones de savane de ces pays, hein, de Côte d'Ivoire et du Ghana, mais aussi énormément des zones de savane des pays limitrophes, en particulier du Burkina Faso, qui a joué et qui joue encore un rôle considérable, voire maintenant prépondérant dans l'économie cacaoyère de la Côte d'Ivoire.
Mais est-ce que cette progression, cette migration vers les zones cacaoyères, Michel Arion, ça a été quelque chose de spontané de ces populations, ou est-ce que c'était voulu par les autorités ivoiriennes ?
Ouais, disons qu'historiquement, vous savez que le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, était quelqu'un qui considérait que tout le monde était le bienvenu en Côte d'Ivoire. Donc il a certainement laissé les frontières ouvertes. Maintenant, ça n'a pas été organisé, mais disons qu'on a promu la culture du cacao, et en absence de force locale, de force de travail locale, oui, ils ont fait venir des populations migrantes.
Il y avait la volonté des pouvoirs politiques ivoiriens, de Houphouët-Boigny et de ses successeurs, de faire de la Côte d'Ivoire une puissance cacaoyère.
Oui, et plus généralement une puissance agricole, puisque les immigrés ne travaillaient pas que le cacao, ils ont fait aussi d'autres produits comme l'huile de palme ou le caoutchouc, où se sont installés. C'est l'agriculture en général qui a été développée. C'était assez visionnaire à l'époque, puisque si on se souvient des années 60-70, on rêvait d'industrialiser l'Afrique, et ça ne s'est malheureusement pas véritablement concrétisé, même s'il y a quelques réalisations en la matière. C'est surtout dans l'agriculture que ces populations se sont installées. Pas uniquement en Côte d'Ivoire, aussi au Ghana, vous avez la même chose au Cameroun ou au Nigeria.
Visionnaire, François Ruff, les autorités ivoiriennes ?
Oui et non. Comme dit Michel Arion, il y a eu un mélange de spontané et de politique. C'est-à-dire les migrations ont commencé à l'époque coloniale, dans un contexte de politique variable, où l'administration coloniale aurait eu plutôt tendance à protéger les intérêts des populations natives et autochtones, s'inquiétant des conflits déjà qui naissaient dans les années 50. Donc l'immigration avait commencé, elles jouaient déjà un rôle, elles déclenchaient déjà des conflits, et c'est clair que Houphouët-Boigny les a accélérés. Et notamment, il les a accélérés en incitant, par exemple, en construisant les barrages dans le lac de Kossou, en zone de savane, et en organisant là des migrations de populations ivoiriennes baoulées, mais aussi en ouvrant les frontières, comme dit Michel Arion. Mais après ça, il y a encore eu une troisième phase où l'État ivoirien n'avait plus conscience de l'ampleur, de la magnitude avec lesquelles ces migrations s'organisaient de façon spontanée et de façon incontrôlée. C'est-à-dire le sud-ouest du pays, quand le pont a été construit sur le grand fleuve du Sassandra et qui a ouvert un tiers de la zone forestière à l'appétit des migrants, ce processus de migration est devenu totalement incontrôlé et sous-estimé dans les bureaux climatisés d'Abidjan.
Mais ça, vous nous parlez de quelle période, de quelle époque là ?
La grande période des années 70, où la croissance de la population se faisait par dizaines de pourcents.
Est-ce que ce phénomène se poursuit aujourd'hui ?
Peut-être pas au plan national au même rythme, parce que c'est plus un tiers de la zone de pays qui est ouvert à l'appétit des migrants, mais il est de notoriété publique que dans la décennie 2000, au moment où la Côte d'Ivoire a traversé une période de flou, on va dire, et de conflit au niveau national, les dernières forêts classées du pays ont été ratiboisés, si je puis dire. Et aujourd'hui, dans les années 2010, on arrive à 2020, le processus s'est répété sur les toutes dernières forêts du pays. C'est ça le drame.
Alors justement, François Ruff, vous me fournissez une transition parfaite. En moins de 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier et la forêt continue de disparaître, de brûler à petit feu. Des travailleurs pauvres venus de l'étranger pénètrent illégalement dans ces territoires théoriquement classés et protégés pour déboiser et planter du cacao. La Côte d'Ivoire, avec 2 millions de tonnes produites par an, vous l'avez dit, est le principal producteur mondial. Dans l'est du pays, à 25 kilomètres d'Abengourou, les populations assistent impuissants à la disparition de l'un des derniers joyaux du pays, la forêt classée de Bossématier. C'est un reportage Écodicier Éco d'ailleurs, signé François Humfer Katadji, dans la forêt de Bossématier.
25 km de piste en latérite séparent la ville d'Abengourou de Bébou, un village en lisière de la forêt classée de la Bossématier. Bien que difficile d'accès, c'est dans cette forêt qu'environ 3000 travailleurs illégaux, principalement burkinabés, se sont installés au cours de la dernière décennie pour venir y planter du cacao. Ces infiltrations ont connu un boom ces deux dernières années. Elles ont poussé les habitants de Bébou à créer un comité citoyen de protection de la forêt. À l'arrivée sur le site classé, des exploitants déguerpissent, leur silhouette s'efface dans les fourrés. Agnès Billet-Modeste est le secrétaire général de ce comité.
Il est en train de travailler ici. Lorsqu'on est arrivé, il a entendu les bruits, j'étais en train de filmer automatiquement. Il a détalé, il est rentré par. Ils sont en train de tuer les arbres avec le feu. C'est malheureux. Nous sommes impuissants.
Car une centaine de mètres derrière le rideau de végétation dense qui longe le chemin forestier, le constat est accablant. Des arbres centenaires ou bicentenaires agonisent, dévorés par les braises, rongés par un feu couvert.
Tout est dégradé.
Regarde la hauteur de l'arbre, c'est mort.
L'arbre, tous sont déjà secs. La forêt est détruite.
Ça dépasse plus de 25 mètres.
Et les animaux ne vivent plus dans ça. Les éléphants sont chassés. Il y a des espèces d'arbres qu'on ne voit plus. Et les gens ont commencé à planter des cacaoyers.
Les exploitants illégaux défrichent les sous-bois et profitent d'une terre forestière riche et fertile, favorable à la croissance des cacaoyers et à la production de fèves de qualité. Après quelques années seulement, ils s'attaquent aux plus grands arbres. Selon Abel Gallo, assistant chercheur, spécialiste de la filière et président de l'ONG IDECOCOA, les exploitants illégaux trompent ainsi les expertises basées sur les imageries satellites visant à contrôler le niveau de déforestation.
Ils plantent et au fur et à mesure que la plantation évolue, ils éliminent progressivement les arbres. De sorte qu'au départ, dans les deux premières années, quelle que soit la surveillance satellitaire qui va être faite, vous ne vous apercevez pas qu'il y a une destruction qui se fait dans le sous-bois. Et c'est après 3 ans, 4 ans qu'on se rend compte qu'il y a une destruction qui est en train de se faire à l'intérieur de la forêt.
Allons.
Plus loin, le groupe découvre un modeste campement. Les planteurs illégaux viennent tout juste de s'enfuir. Un feu de camp encore fumant, des sacs de riz abandonnés à la hâte. Un débat s'engage pour savoir s'il faut saccager les apatames et confisquer le matériel. Finalement, c'est une pépinière de jeunes pousses de cacao qu'ils détruisent à coups de machette.
Vous avez déjà essayé de discuter avec les gens qui viennent là dans la forêt? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, c'est des personnes qui sont... Qui même quand ils nous voient même dans la forêt, ils nous menacent déjà. Parce qu'ils se disent qu'en les voyant dans la forêt, on va faire un rapport pour qu'on puisse les chasser. Donc en nous voyant dans la forêt, ils nous menacent.
La forêt de la Bossématier, classée dans les années 50, aurait déjà disparu de 60%. Elle a subi 3 vagues d'infiltration depuis les années 70, mais la dernière est de loin la plus menaçante. Les membres du comité sont inquiets de voir disparaître ce trésor de biodiversité.
Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. S'il n'y a pas de forêt, automatiquement, on est exposé. La chaleur, on ne prend pas conscience de tout ça. Dans le temps où il y avait la forêt, il pleuvait normalement. Mais aujourd'hui, rien.
Demain, nos enfants qui sont à l'école, c'est dans les livres, c'est pour leur présenter des espaces verts pour dire que oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la forêt. Avant, la forêt était comme ça, alors que ce n'est pas ça. Les lianes, par exemple, qui nous servaient de médicaments, qui nous donnaient une certaine force, que ces lianes-là vont perdre. Quand ils mettent le feu et que ça brûle, il n'y a plus de grains qui vont pousser. Donc nous perdons tout.
Au-delà des travailleurs pauvres qui exploitent cette forêt, ils en veulent surtout aux autorités accusées d'immobilisme et de laisser faire.
La chose des forêts a abandonné. L'État n'en voit pas. Il devait avoir un poste ici, pour ne pas dire un camp, des autres forêts ici, pour pouvoir surveiller. Rien. ils viennent ne serait-ce que peut-être une fois chaque trimestre. Comment vous êtes censé assurer la protection d'une telle zone? Et les éléments des eaux forêts qui sont dans la zone ici n'atteignent même pas 15. 15 personnes pour une forêt de 26 000 hectares, c'est impossible.
Selon un rapport de l'ONG Mighty Earth, un tiers du cacao produit en Côte d'Ivoire proviendrait des forêts classées. Le comité de Bébou va continuer à se battre pour préserver ce qui reste des 22 000 km² de la forêt de Bossé-Mathié. Mais au rythme actuel de déforestation, les experts estiment qu'elle aura entièrement disparu d'ici 5 à 10 ans.
François Ruff, la forêt de Bossé-Mathié, c'est une zone que vous connaissez bien, sur laquelle vous travaillez avec vos équipes du CIRAD. La situation est désespérée?
Oui, le reportage le dit très bien. Ce qui est effrayant, c'est que les migrations dans cette forêt, les inclusions avaient commencé tôt dans les années 70, mais grâce à la coopération allemande, il faut le dire en passant, dans les années 90, la situation avait été à peu près stabilisée. Parce que pour protéger une forêt, il faut de la présence. Hein. Ça a été dit un peu dans le reportage. Il faut dissuader les migrants infiltrés de venir et de s'installer quand ils voient beaucoup de passages, des 4x4, des uniformes, des comités villageois, etc. Ils ne rentrent pas, ils ne restent pas. Mais si pendant 2 ou 3 ans, la forêt n'est pas visitée, alors eux s'installent et occupent le terrain. Et donc c'est la troisième vague, effectivement, comme dit le reportage, notamment tout récemment, à partir de 2019, où l'intrusion est catastrophique. C'est à un moment dans le reportage aussi, un intervenant dit, vous voyez, ils sont très malins, ils y vont progressivement, ils brûlent les arbres progressivement, et au bout de 3 ans, 4 ans, quand vous découvrez que la canopée est ouverte, c'est trop tard, quoi. La forêt est déjà convertie en cacaoyère. Mais aujourd'hui, ils prennent même plus de précautions. Ils se sentent tellement puissants, ces migrants. Ce sont pas seulement des travailleurs pauvres. Il y a tout un réseau. Il y a des complicités. Il y a des gens qui viennent depuis le nord de la Côte d'Ivoire, depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec des complicités, des réseaux, des financements. Et donc ils se sentent tellement puissants, vous avez dit, ils menacent les autochtones, ils prennent même plus de précautions, ils brûlent les arbres à une vitesse effrénée. C'est un cri du cœur là que je pousse en ami de la Côte d'Ivoire, presque en Ivoirien. Je me considère, j'ai 40 ans de recherche en Côte d'Ivoire. Je m'excuse d'exposer mon problème personnel, mais je me sens ivoirien. Donc c'est vraiment un désespoir. Je partage le désespoir des riverains de voir cette forêt disparaître. Ce ne sont pas seulement des arbres qui disparaissent. C'est une forêt, c'est un écosystème. Des géants de 40 mètres de haut, de 2 mètres de diamètre qui sont brûlés en quelques heures. C'est tout ça pour rien, pour produire quelques fèves qui sont sur, comme on a dit, vous avez dit dans votre présentation, maintenant vendues à des prix dérisoires sur le marché international. Ça n'a plus de sens.
Michel Arion, est-ce que l'Organisation internationale du cacao se préoccupe de ce genre de situation?
Oui, disons que ça fait partie des objectifs généraux liés à ce qu'on appelle la durabilité environnementale du cacao. Il est sûr que notre organisation travaille à la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'agenda global du cacao, qui vise à faire en sorte que la culture du cacao soit beaucoup plus durable, tant au niveau environnemental que social ou économique. Je crois que tous les problèmes qui viennent d'être exposés en matière d'environnement sont d'abord et avant tout liés à la pauvreté générale des populations et au manque d'autres opportunités pour gagner sa vie. Quand on a moins d'un dollar par jour pour vivre, il est évident qu'on est prêt à détruire la forêt pour planter quelques arbres et gagner quelques euros. Et donc les causes profondes de la non-durabilité de ces cultures cacaoyères, qui ne sont d'ailleurs pas généralisées, je veux dire, c'est pas parce que on voit ça en Côte d'Ivoire, je vous invite à aller au Costa Rica ou dans d'autres pays où l'on voit qu'il y a moyen de faire du cacao de manière durable. Je répète que cette durabilité doit être considérée dans son intégralité.
Et donc, quand la Fondation mondiale du cacao se félicite de voir des arbres plantés, quand le ministre des Eaux et Forêts lance une opération 50 millions d'arbres, vous, Organisation internationale du cacao, vous dites que ça compense ces déforestations et que la production du cacao, finalement, elle est organisée dans la durabilité, potentiellement en tout cas.
Ben, potentiellement, oui, je pense qu'il y a des façons de produire du cacao qui sont parfaitement durables.
Et est-ce que le cacao en Côte d'Ivoire est produit de manière durable?
Bon, nous, en tant qu'organisation internationale du cacao, nous ne jugeons pas des politiques nationales de nos membres. Ce que nous disons, c'est que l'ensemble de nos membres doivent veiller à cette durabilité. Et ce que nous voyons, notamment, c'est d'abord et avant tout l'adoption de politiques sectorielles en matière d'eau et forêt et de gestion de la forêt qui sont parfaitement compatibles avec le cacao. Maintenant, quand les pratiques sont différentes de la politique, ça c'est autre chose. Mais nous, au niveau de l'organisation, nous entendons sur les meilleures pratiques, je vais dire.
François Ruff, est-ce que ces annonces de la Fondation mondiale du cacao, ces initiatives du gouvernement ivoirien de planter de millions d'arbres répondent à la problématique?
Mais non, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que rien. C'est-à-dire l'industrie du chocolat ou les multinationales, comme on peut les appeler, se sont embarquées dans des programmes de plantation d'arbres là, tout récemment. Donc c'est mieux que rien, encore une fois, mais c'est aussi... Je vais utiliser des mots un peu forts, hein, où j'espère que les auditeurs m'en voudront pas, mais je considère que ces déclarations-là sont mensongères. Elles sont en tout cas très exagérées et elles entretiennent la confusion. Donc c'est pas parce qu'on plante une dizaine d'arbres dans un hectare de cacao qu'on fait une forêt. La confusion est entretenue entre arbres et forêts. Je pense que le reportage a fait transparaître l'ambiance extraordinaire, un écosystème forestier, une forêt, c'est un véritable joyau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une biodiversité végétale, animale, des éléphants, vous vous rendez compte, des éléphants encore en Côte d'Ivoire, et je crois qu'ils sont passés de 3000 à 150 dans le pays. Donc, c'est pas en plantant, pour utiliser des termes techniques, deux fraquets, trois framirés, deux manguiers, trois akpis, dans une cacaoyère qu'on reconstitue une forêt tropicale. Donc il y a quelque chose, volontairement ou involontairement, moi je me demande si ces représentants des multinationales ne pêchent pas aussi par beaucoup d'ignorance. Je le dis carrément. Et peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une forêt. C'est pour ça que je les invite à venir à la Bossé-Mathier et venir voir le massacre organisé, quoi. On détruit pas, on peut pas détruire, c'est pas possible, c'est insupportable. On peut pas détruire impunément des géants de 40 mètres de haut, de 2 mètres de diamètre, et puis dire en même temps que, savoir que ça se passe, et en même temps dire en même temps qu'on reforeste et qu'on fait des progrès dans la déforestation. C'est juste insupportable. Et là, c'est le rôle du chercheur de corriger la voie des multinationales.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du cacao ivoirien, de la problématique de sa production, des difficultés finalement qui se posent dans cette production avec deux interlocuteurs, François Ruff, chercheur économiste au CIRAD, grand connaisseur de cette problématique que vous venez d'entendre, et Michel Arion, qui est un diplomate européen et qui est aujourd'hui le directeur général de l'Organisation internationale du cacao et qui sont tous les deux sont à Abidjan. Michel Arion, François Ruff semble mettre en cause les multinationales qui semblent, ce n'est pas le mot qu'il prononce, mais avoir une complicité, en tout cas une responsabilité dans cette situation de déforestation massive de la Côte d'Ivoire, puisque ce sont elles qui finalement incitent à la production. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Ben oui et non. Je dois dire que je suis un peu triste et mal à l'aise de voir qu'on fait porter au cacao tous les péchés liés à la déforestation ou au travail des enfants d'ailleurs, qui est un autre sujet. Il y a bien d'autres produits qui contribuent à cette déforestation et à la pauvreté en général. Et Donc, c'est, bien sûr, ce sont les multinationales du cacao qui ont une part de responsabilité dans cet état de fait, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je répète que tant qu'on n'aura pas une approche globale du rôle respectif du secteur agricole dans l'économie du pays, de la façon dont il faut exploiter les forêts, eh bien, tant qu'on n'aura pas cette vision globale, on ne s'attaquera pas aux causes profondes des problèmes de ce pays. Je voudrais aussi rappeler, je sais que c'est une réponse un peu difficile à accepter, mais je voudrais quand même rappeler que l'Europe et les États-Unis se sont développés au 19e siècle en déforestant, que nous avons construit toute notre révolution industrielle en nous urbanisant, en provoquant également une déforestation massive pour alimenter nos usines d'acier, etc. Donc c'est difficile. Et aujourd'hui, quand j'entends les Européens et les Américains dire aux Africains « cessez de déforester », je peux parfaitement comprendre que la réponse soit « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ?» Hein ? Donc je crois que tout ça doit se faire dans un souci d'abord de respect mutuel et de dialogue positif.
Vous dites à François Ruff, votre discours est un peu colonialiste ?
Sûrement pas colonialiste, non, au contraire, je crois que ce serait vraiment pas bien d'accuser François Ruff de colonialisme, il est tout sauf ça, hein, il est tout sauf ça. Non, je crois qu'il faut un peu de modestie et d'humilité en disant vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça, alors que nous-mêmes nous l'avons fait. Alors maintenant nous nous rendons compte que nous avons commis ces erreurs et c'est exactement le même débat que sur le changement climatique. Moi je comprends parfaitement l'Inde ou la Chine répondre aux Européens, aux Américains, vous avez pollué pendant deux siècles, laissez-nous polluer à notre tour.
Restons sur le cacao, Michel Arion. François Ruff.
Oui, sur le discours global de Michel Arion, je suis d'accord, mais appliqué à la Côte d'Ivoire et au cacao, je ne suis plus d'accord. C'est-à-dire que, c'est très compliqué, mais il faut que je développe en trois minutes quand même. D'abord, le niveau de déforestation en Côte d'Ivoire a atteint, je ne sais pas si on peut comparer avec celui des pays développés, mais il reste pratiquement rien. En Côte d'Ivoire, il ne reste pratiquement rien. Donc, il s'agit maintenant, on accepte, on a compris que la Côte d'Ivoire s'est développée, avait besoin d'utiliser ses forêts pour planter du cacao. Entre parenthèses, quand même, le cacao, c'est le grand, pour utiliser un mot français, c'est le grand driver de la déforestation. Hein, le palmier à huile, les BA, etc., ont joué des rôles tout à fait mineurs par rapport au cacao. C'est quand même le cacao qui est le grand responsable de la déforestation, et donc derrière, ce sont les politiques publiques, il faut le dire les choses comme elles sont. Les multinationales ne sont pas directement responsables, on n'est pas dans des républiques bananières, l'État de la Côte d'Ivoire ou l'État du Ghana sont souverains. Mais les multinationales ont une responsabilité dans leur communication, parce que la Chine ou l'Inde ne disent pas « Ah oui, vous avez raison, on va arrêter de polluer », et puis ils continuent de polluer. Or, ce que disent les multinationales du chocolat, c'est « Ah, on fait des progrès, on limite la déforestation », et ce n'est pas du tout vrai. Ou bien ils disent on a la traçabilité, on n'achète plus ou très peu de cacao qui vient des forêts glacées », ce qui est complètement faux. Hein. Je m'excite un peu parce que je ne sais pas si les auditeurs peuvent appréhender mon état de révolte profonde par rapport aux mensonges, par rapport à la mauvaise communication, par rapport à une communication forcée qui devient trop biaisée. Toute fève de cacao produite dans une forêt classée arrive au port. Il n'y a aucun moyen d'empêcher cette fève d'arriver au port. Et l'industrie du chocolat le sait très bien. Donc, et ils peuvent faire toutes les opérations de recherche, de petits programmes avec des ONG internationales et de communiquer là-dessus, ça ne change rien. La seule façon d'arrêter que des fèves arrivent au port, c'est d'arrêter que les cacaoyers soient plantés dans la forêt. Il faut carrément abattre ces cacaoyers et empêcher qu'ils soient replantés.
Est-ce qu'il faut réduire la production de cacao en Côte d'Ivoire ?
C'est un autre point important. On a, à un moment dans le reportage et au début de l'émission, on a évoqué le rôle des Burkinabés. Donc les Burkinabés ont joué un rôle très important, comme ce sont les principaux acteurs. Là encore, j'espère que je ne vais choquer personne, mais les Burkinabés aujourd'hui, il faut l'admettre, sont les principaux acteurs du cacao en Côte d'Ivoire. Les exploitations cacaoyères organisées, gérées, menées par des Burkinabés représentent à peu près 50% du cacao en Côte d'Ivoire.
Mais bon, ce sont de grandes exploitations ou est-ce que ce sont seulement des petits lopins de terre?
Oui, enfin, ce sont des exploitations dites familiales avec éventuellement un peu d'apport parce que on peut toujours, quand on est Burkinabé, on peut toujours appeler un petit frère ou un cousin et donc il y a une alimentation permanente de ces exploitations familiales en main-d'œuvre qui arrive du Burkina Faso, mais ça reste des petites unités familiales et elles sont très créatrices, très dynamiques. J'aime beaucoup les Burkinabés, ils jouent un rôle très important dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils sont très créatifs, mais il y a un moment quand on arrive aux derniers joyaux, aux derniers hectares de forêt classés de forêt dans le pays, il faut arrêter. Je parle comme représentant des comités villageois peut-être, hein, de ceux qui ont exprimé cette douleur. Messieurs les Burkinabés, vous êtes créatifs, vous êtes inventifs, vous apportez beaucoup au pays, donc continuez d'apporter au pays en créant ce que vous savez faire aujourd'hui. On parle de cacao durable, on a parlé de cacao culture durable tout à l'heure. Il n'y a pas qu'au Costa Rica, hein. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup de planteurs ivoiriens ont réinventé la cacao culture. Et ça, faire du cacao, ce qu'on appelle du cacao durable, sans trop savoir parfois ce que c'est, mais on dit ça, faire du cacao sans forêt.
François Ruff, à propos de planteurs, on va aller en rencontrer un. Yao Jonas, un planteur de 42 ans, est installé dans la région d'Abengourou, pas dans la forêt de Bossématier, mais sur la route d'Abengourou. Et il raconte, dans ce reportage que nous allons diffuser, les multiples difficultés que vivent les premiers acteurs de la filière cacao, surtout après l'échec du plan gouvernemental de faire passer le prix du kilo de cacao à 1000 francs CFA. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Humfer Kataji.
Moi, c'est Yao Jonas. Je suis cultivateur précisément à Kodina.
Un grand sourire et une carrure d'athlète. Yao Jonas s'est accordé un jour de repos après plusieurs mois de travail quasiment sans interruption. Il possède 7 hectares à Kodina, dans l'est du pays. Les derniers mois ont été difficiles en raison des imprévus de la grande campagne de récolte de cacao qui court d'octobre à mars.
On n'a pas eu l'argent comme il se devait. Parce que les gens, ils ont pris le cacao et puis bon, à un moment donné, on nous a dit au niveau du port, on n'arrive pas à livrer le produit, donc attendez. Donc on est resté dans l'attente, on a mangé difficilement, donc presque tout notre argent est parti. Ça a été difficile pour nous parce qu'on n'arrivait pas à manger à notre faim.
Initialement fixé à 1000 francs le kilo, les fèves de cacao lui ont finalement été payées à 800 francs le kilo et avec plusieurs mois de retard. Officiellement, le gouvernement avance une chute de la demande en raison de la crise sanitaire mondiale. Mais plusieurs experts évoquent également une stratégie orchestrée par les multinationales pour contourner la récente hausse du prix du cacao censé profiter aux planteurs. En raison de ce bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les exportateurs, Yao Jonas est criblé de dettes.
Jusqu'à présent même, je n'ai pas fini de payer mes dettes parce que l'argent n'est pas venu à temps et que on a pris encore d'autres dettes et ça fait que actuellement là, on est acculé même parce que on doit toujours.
Les difficultés des planteurs ne datent pas de cette saison catastrophique. Elles existent depuis des décennies. Jusqu'à ce jour, seulement 6% du prix d'une tablette de chocolat revient aux petits producteurs et ça ne s'arrange pas. Du fait des difficultés d'écoulement des fèves au port, le prix Borchamp est retombé fin mars à 750 francs le kilo, un prix qui ne permet pas aux planteurs de vivre dignement. Yao Jonas raconte ses difficultés quotidiennes.
Le prix n'est pas beaucoup. Le prix n'est pas beaucoup parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, nous savons tous, hein, les denrées coûtent cher. On nous parle de 750. Pendant que le kilo de riz, on connaît déjà le prix, on ne peut pas payer le savon. Côté santé même, on n'en parle pas parce que là, on n'arrive pas à se soigner. Actuellement, quand tu vas à l'hôpital, le coût est cher. Ça dit, tu sais que tu es en train de mourir, mais tu es là, tu fais semblant, tu fais croire que ça va, pendant que tu es en train de mourir.
Investir pour se diversifier, Yao Jonas n'en a pas les moyens. Il explique en outre que l'EVA et le café n'offrent pas de meilleurs revenus.
On veut diversifier les choses pour pouvoir avancer. Je vois qu'il y a toujours un barrage, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'EVA, ça ne donne même plus l'envie de faire les verres. Or, pour entretenir un champ de verre, ça coûte très cher.
Désormais, il s'accroche pour préserver les plantations sur les terres familiales héritées de son père.
En tout cas, mon mal, c'est ça. J'aime le métier, mais je n'ai pas les moyens pour subvenir aux besoins de ce que je veux faire. Mon champ, quand aujourd'hui j'arrive, il y a des insectes partout. Je suis écœuré, mais je n'ai pas les moyens pour entretenir le champ. Il faut payer du carburant. Le carburant est cher actuellement en Côte d'Ivoire ici. Et le produit même pour entretenir le champ, le produit est cher. Parce que les produits que les gens souvent nous envoient ne sont pas les produits de bonne qualité. On nous envoie ça, on dit que c'est l'État qui donne. Ça, c'est gratuit. Mais quand tu utilises dans le champ, il n'y a pas d'apport.
Yao Jonas, marié et père de 4 enfants, a dû demander à son beau-frère de s'occuper de l'un de ses fils, n'ayant pas les moyens de l'élever correctement. En 2019, la Banque mondiale estimait dans un rapport que plus de 5 à 6 millions de personnes vivant du cacao subsistaient toujours sous le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire.
Un reportage signé François Humfer-Kataji. Michel Arion, vous évoquiez la misère qui poussait les gens à produire du cacao, mais le cacao n'est pas non plus très rémunérateur à ce qu'on entend là.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est absolument le problème central de tout le secteur du cacao. Les prix sont beaucoup trop bas. Et quand je dis les prix, je vise non seulement les prix payés aux producteurs, mais surtout les prix internationaux. Parce que, comme vous savez sans doute, le prix payé aux producteurs, c'est selon le cas 60 ou 70% du prix à l'exportation.
C'est le cas en Côte d'Ivoire ? C'est le cas en Côte d'Ivoire ?
Oui, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Donc le problème du prix bas, les fameux 750 francs CFA, c'est dû au fait que les prix mondiaux ont baissé. Et je dirais, ils ont baissé relativement récemment, on peut expliquer pourquoi, mais surtout dans la durée. Si vous regardez la série historique des prix du cacao depuis 40 ans, les prix ont été divisés par 3. Autrement dit, le prix aujourd'hui payé FOB, prêt à l'exportation, c'est un tiers du prix en dollars ou en euros de l'époque, c'est un tiers du prix d'il y a 40 ans. Et donc, il ne faut pas s'étonner si on a en définitive une production de cacao qui est le fruit du travail de paysans de plus en plus pauvres, en réalité. Donc, c'est dans le domaine des prix, à mon avis, que l'on doit absolument travailler ensemble. On faisait référence aux multinationales, mais je pense qu'il faut vraiment un dialogue constructif entre les gouvernements des pays producteurs et des pays consommateurs, avec les multinationales, tous autour de la table, pour voir dans quelle mesure on ne peut pas influencer globalement les marchés du cacao pour obtenir un meilleur prix.
Michel Arion, vous avez vu, il y a 2 ans, en 2019, Accra et Abidjan, les gouvernements ghanéens et ivoiriens, ont imposé une nouvelle taxe, $400 la tonne que devaient payer les multinationales du cacao pour mieux rémunérer les planteurs, et puis ça n'a pas marché.
Oui, mais d'abord, c'est pas proprement parler une taxe, hein, c'est un supplément de prix payé directement aux paysans. Donc ce fameux différentiel de revenus décents n'est pas payé au gouvernement. Il se traduit par une hausse du prix payé aux paysans. Ça n'a pas marché pour 2 raisons. D'abord parce que ce n'était que la Côte d'Ivoire et le Ghana, et même s'ils représentent 2/3 du cacao, il reste encore 1/3, et ça a permis à d'autres pays de fournir du cacao aux grandes entreprises acheteuses. Deuxièmement, on a malheureusement, cette mesure a été prise 6 mois avant l'éclatement de la pandémie du Covid, qui a diminué la demande. Donc on a eu un problème conjoncturel. Je crois que la réponse reste bonne, c'est-à-dire la réponse consiste à d'abord à faire payer ce différentiel de revenus décent, et il faut, je pense que d'urgence les autorités des pays concernés se mettent d'accord pour en fait traduire tous ces efforts de durabilité par la rémunération, une rémunération accrue des producteurs. Et ça, je le répète, ça ne se fera que si l'ensemble des producteurs se mettent autour de la table avec les pays acheteurs, ou plus exactement importateurs, et les multinationales. Il y en a pas beaucoup. On sait combien le marché est concentré, tant au niveau de l'offre que de la demande. Je crois qu'avec une douzaine de personnes autour de la table, on représente représentent 90% du marché du cacao. Et c'est vers là qu'il faut tendre, à mon avis.
François Ruff, vous croyez que c'est gérable, cette situation ?
Bon, le chercheur peut se permettre quelques fantaisies. Je dirais, si c'est jouable, pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt, hein ? Un OPEC du cacao, sur papier, un OPEC, c'est l'équivalent de l'organisation des pays pétroliers. Et pour le cacao, sur papier, est jouable, mais en réalité, c'est très difficile, puisque on ferme pas un robinet de production de cacao, hein, comme on ferme un robinet de pétrole. La production de cacao, c'est le résultat de décisions de centaines de milliers de producteurs. Et donc, c'est très très difficile pour un État de contrôler sa production, et il le contrôle pas du tout, en tout cas pas à court terme. Donc je suis un peu sceptique. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer, mais je suis un peu sceptique. Maintenant, en même temps, pourquoi on a un effondrement ? Pourquoi, comme dit Michel Arion, on a eu en l'espace de quelques dizaines d'années un effondrement du prix du cacao au tiers de ce qu'il était ? Mais c'est pas des chocs externes, hein. C'est pas non plus les méchants capitalistes ou les méchantes multinationales. C'est tout simple, c'est en grande partie l'offre et la demande. Et l'offre, c'est les pays producteurs qui la mettent sur le marché. Et d'une certaine, moi je me rappelle déjà en 93, on avait organisé une grande conférence cacao à Bali. Et il y avait un certain Steve Wadrich qui a dû quitter le secteur depuis, mais qui était un des traders importants en Belgique et en Hollande, en Europe en tout cas, qui nous rappelait que en 92-93, la Côte d'Ivoire faisait les mêmes revenus avec le cacao que 15 ans avant, avec moitié production. Ça veut dire, pour revenir à la destruction de la forêt, on a détruit la forêt, on a brûlé la forêt pour rien. Pour apporter pas plus. Et si le prix s'effondre, c'est parce qu'il y a trop de cacao et de façon incontrôlée, par excès de migration, dans plusieurs pays, et en particulier en Côte d'Ivoire et au Ghana.
Mais Michel Arion, vous rappeliez, vous souligniez au début de l'émission que la Côte d'Ivoire venait de passer devant les Pays-Bas comme première force transformatrice de cacao. Donc ils produisent de la poudre, du beurre, des produits un peu plus sophistiqués que la fève brute, et que ça apporte plus de revenus au pays. Mais visiblement, ça, où s'arrête cet argent ? Où va cet argent ? Visiblement, ça n'arrive pas aux planteurs.
Oui, en effet. Laissez-moi d'abord revenir sur cette idée d'OPEP que mentionnait François. Moi, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire, l'OPEP, c'est pas suffisant. L'OPEP, c'est une association de producteurs. Moi, ce dont je parle, c'est un OPEP avec les consommateurs.
Est-ce que ça n'a pas existé avec l'accord international sur le cacao qui remonte à près de 50 ans et qui a échoué?
Oui, mais c'est précisément l'ICCO, l'Organisation Internationale du Cacao, qui est le forum rassemblant à la fois les producteurs et les consommateurs. Et donc c'est bien pour ça que je dis que c'est au sein de notre organisation que nous devons organiser cette discussion. Hein? Donc il existe un forum, maintenant il faut mettre à l'agenda ce genre de choses. Ce que nous dit François Ruff sur l'excès d'offres est tout à fait vrai. Nous sommes structurellement dans un marché du cacao en excédent. On va sortir cette semaine nos dernières statistiques qui vont vous montrer que pour la première fois dans l'histoire du cacao, le monde produit 5 millions de tonnes, a dépassé 5 millions de tonnes de cacao. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté, l'autre versant de l'équation des prix. Il y a l'offre, mais il y a aussi la demande. Nous nous apercevons que la demande n'augmente pas, ou très peu. Les marchés américains, les marchés européens sont saturés. Il faut donc trouver le moyen de développer la consommation de cacao dans des pays consommateurs émergents. Et là, évidemment, l'Asie constitue une opportunité énorme pour développer la demande de cacao. Un Européen mange 7 kilos de chocolat par an, un Chinois 70 grammes. Donc, je ne sais pas mécanique, on ne va pas multiplier par 100 la consommation de chocolat des Chinois ou des Indiens, mais c'est là que gisent les potentialités de demande.
Mais alors, répondez à ma question, Michel Arion, les revenus tirés, les plus-values tirées de la transformation en Côte d'Ivoire, de la transformation du cacao, où vont-ils ?
Mais évidemment, ce sont les investisseurs privés, c'est-à-dire les multinationales auxquelles on faisait référence, mais aussi timidement quelques investisseurs locaux, qui, y compris d'ailleurs des investissements publics, qui développent ce secteur de la transformation industrielle du cacao. C'est une bonne chose, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée, ça permet d'exporter des produits plus cher, puisqu'ils incorporent les coûts de la transformation. Ça produit aussi à terme des impôts, puisque ces entreprises doivent payer des impôts sur le bénéfice commercial, etc. Donc ça va à tout le monde, je dirais. Ça va à la fois dans la poche des travailleurs, de l'État et bien sûr des entreprises et des investisseurs. Mais ça ne va pas, nous sommes bien d'accord, ça ne va pas améliorer le prix payé aux paysans. Ce prix payé aux paysans n'augmentera que si les prix internationaux augmentent et reviennent au moins à la valeur équivalente de ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Et pour ça, il faut faire d'énormes efforts et, en fait, réfléchir à la façon dont on peut fixer d'une façon ou d'une autre, et bon, je suis pas partisan d'une économie dirigée où on fixerait des prix, évidemment, il faut affronter la réalité. Je suis bien d'accord que c'est le marché qui fixe les prix au niveau international, mais il faut que le marché se rende compte qu'il doit intégrer tous les coûts indirect de production du cacao, c'est-à-dire tous les coûts de la durabilité.
On arrive à la fin de l'émission, Michel Arion, et je voulais laisser le dernier mot, si vous le permettez, à François Ruff. François Ruff, cette industrialisation de la filière cacao en Côte d'Ivoire, c'est un peu d'optimisme quand même ?
Oui et non, ça va dans le bon sens, mais comme ça a été dit, ça n'améliore pas significativement la situation des planteurs. Moi, si vous me laissez le mot de la fin ou presque, je ferai le lien entre le prix et la forêt. Pourquoi on arrive à un prix du cacao très bas? C'est le résultat de l'exploitation de la pauvreté de gens venus de zones pauvres, hein, qui viennent exploiter la forêt, le coût de reproduction de la forêt est externalisé, comme disent les économistes. Si on internalisait le coût de reconstitution de la forêt, le prix du cacao serait 30 ou 40% plus élevé. Donc, d'une certaine façon, le monde du chocolat, les multinationales et toute la filière profitent de cette externalisation du prix qu'il faudra bien payer un jour par le régime. Qu'on paye déjà aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Et donc, tout ce que peut faire le petit chercheur expatrié en Côte d'Ivoire, c'est d'encourager tous les acteurs à arrêter de communiquer et à travailler. J'invite les gens à venir visiter la forêt de la Bossématier et à voir avec les migrants, avec les riverains, comment on peut résoudre le problème et essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé, les tout derniers hectares.
C'est le mot de la fin. Merci François Ruff, merci Michel Arion d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Pure Radio de votre smartphone ou podcaster. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.